avec Alliance Vita au service des plus fragiles. Aujourd'hui, nous accueillons Maëlys Fourmi, ergothérapeute et membre du groupe Alliance Vita.
À peine le Congrès avait-il voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution, que se profilait déjà le spectre d'un nouveau projet de loi, cette fois-ci concernant la fin de vie. Le président de la République française, Emmanuel Macron, en a dévoilé les grandes lignes à l'occasion d'un entretien exclusif avec les journaux La Croix et Libération. Cet entretien du 10 mars 2024 fait suite à plusieurs étapes jusqu'à décembre 2023, avec la publication d'un avant-projet dans les médias qui dissimulait la légalisation du suicide assisté et l'euthanasie derrière l'expression « aide à mourir », allant même jusqu'à parler d'un secourisme à l'envers pour hâter le décès. Le président de la République nous propose aujourd'hui une loi qu'il précise penser comme une loi de fraternité, conciliant l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation. Emmanuel Macron décrit plusieurs critères pour cet accompagnement qui serait réservé aux personnes majeures, capables d'un discernement plein et entier, aux personnes présentant une maladie incurable et un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme, aux personnes présentant des souffrances réfractaires, physiques ou psychologiques. Enfin, ce serait à l'équipe médicale de décider quelle suite donner à cette demande. Concrètement, la demande d'accompagnement actif à mourir imposerait un délai d'attente obligatoire de 2 jours afin de tester la solidité de la détermination. La réponse devrait intervenir dans un délai maximum de 15 jours. Si la réponse est positive, la prescription serait valable 3 mois, délai durant lequel le patient pourrait se rétracter à tout moment. On parle bien de prescription et d'équipe médicale, jamais de soignant. La mise à mort pourrait être exécutée par un membre de l'équipe médicale accompagnante, ou par une personne volontaire, ou désignée par le patient. À noter qu'aucun lieu ne serait exclu du procédé, la vie pouvant être agrétée en structure, hospitalière ou de soins, en EHPAD et aussi à domicile. L'acte sera financé par la Sécurité sociale car, je cite Emmanuel Macron, « du diagnostic à la mort, c'est une manière d'attester que la société accompagne la personne malade et fragile en reconnaissant la part de vie complète et absolue qu'il y a jusqu'à la dernière seconde. » Avant d'évoquer les nombreuses inquiétudes qu'Alliance Vita partage avec d'autres associations, comme par exemple le collectif Soulager mais pas tuer et les soignants du collectif sur la fin de vie, je souhaite rappeler 2 définitions afin d'éclaircir le propos. Le suicide assisté est l'acte par lequel une personne provoque elle-même sa mort au moyen d'un produit ou d'un dispositif qui ont été mis à sa disposition dans ce but. Avec l'euthanasie, la mort est provoquée par une tierce personne par injection, ce qui n'exige aucune capacité physique de celui qui en décède. Un premier constat est frappant. Ces 2 réalités, euthanasie et suicide assisté, ne sont pas nommées dans le projet de loi actuel. Seule une aide à mourir est décrite. Cette façon de ne pas s'exprimer clairement favorise la confusion avec une efficacité redoutable. En deuxième, il apparaît que ce projet de loi s'appuie sur les pratiques des autres rares pays ayant légalisé l'euthanasie. Il est donc très peu probable que les critères retenus soient définitifs. Nul doute que des amendements visant à étendre l'accès à l'aide à mourir légalisée seront bientôt présentés à nos députés et sénateurs. Je donnerai pour triste exemple la Belgique, qui a voté la légalisation de l'euthanasie le 28 mai 2002 et qui, en février 2014, est devenu le premier pays au monde à légaliser l'euthanasie des mineurs sans limite d'âge en étendant la loi de 2002. Avec Alliance Vita, nous signalons d'autres alarmes concernant les critères d'accessibilité à l'aide à mourir. Les souffrances psychologiques sont incluses, mais comment les définir? Comment distinguer la tentative de suicide, réussie ou non, d'une personne dépressive, de la demande d'euthanasie d'une personne présentant une souffrance psychologique réfractaire? La première situation sera traitée en service psychiatrique et via une prévention du suicide, tandis que la seconde serait accompagnée vers une aide à mourir? Autre exemple, la mention de pronostic vital engagé à moyen terme. Dans quelle limite cette durée de moyen terme sera-t-elle inscrite? La clause de conscience n'est pas du tout prévue ni pour les structures qui accueilleront les patients, ni pour les pharmaciens qui délivreront les produits, Quel regard allons-nous, à terme, nous soignants, poser sur la personne fragile, souffrante, malade? Saurons-nous toujours garder ce regard qui humanise notre patient et nous permet de vouloir son bien, comme promis dans le serment d'Hippocrate? Ou bien nous transformerons-nous en techniciens d'une médecine élitiste, ne sachant plus prendre soin et supprimant le malade à défaut de comprendre comment éradiquer la maladie? Ce regard existe dans les deux sens. Les soignants doivent-ils craindre un changement de regard des patients sur leur pratique, du soin pas à pas à un acte définitif, mortel? Le délai de réflexion serait très court, moins de 3 semaines au final, sachant qu'un acte de chirurgie esthétique impose un délai de réflexion incompressible de 15 jours avant intervention. Il est indécent que le délai de réflexion pour interrompre la vie d'une personne souffrante puisse être si limité. La décision finale appartient à un seul médecin et un contrôle des pratiques d'accompagnement de l'aide active à mourir ne serait organisé qu'a posteriori. Enfin, les familles ne seraient ni consultées ni incluses dans le processus. C'est naturellement que d'autres inquiétudes se profilent. Par exemple, comment éviter la rupture du lien de confiance entre soignant et soigné? Comment demander des meilleures conditions de vie? Comment mobiliser les énergies pour l'accompagnement des personnes âgées si une sortie est déjà proposée et organisée par la société? L'espace éthique d'Île-de-France rappelle que mettre en cause la valeur et la dignité de l'existence de la personne la fragilise davantage, compromet tout investissement des proches et des soignants. Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, résume bien la violence qu'une telle loi implique, même au stade de projet. Ça n'oblige personne à le faire, mais ça oblige tout le monde à l'envisager. Derrière le discours très construit en faveur de la mort médicalement administrée, derrière la promotion de l'autonomie, c'est la figure de l'individu performant, utile à soi ou à l'économie, qui est érigée en modèle. L'euthanasie n'est pas un soin comme les autres, ni le soin ultime. D'ailleurs, que soigne le geste létal? Interroge Isabelle Marin et Sarah Piazza dans leur ouvrage « Euthanasie, un progrès social ». Tout paraît mis en place pour aider à mourir. Mais à quand des lois efficaces et pertinentes pour permettre de vivre? Car dans le même temps, les études d'économie budgétaire du pays évoquent le déremboursement des traitements de maladies et affections longue durée, comme le diabète. Et là où le président de la République annonce une augmentation d'1 milliard d'euros pour développer les soins palliatifs sur 10 ans, nous découvrons que les travaux d'assainissement de la Seine pour les épreuves des Jeux Olympiques à Paris sont financés à hauteur d'1,4 milliard d'euros. Convaincu que le devoir de respect de la vie humaine et de non-abandon des plus fragiles est le pilier essentiel de la vie en société, nous restons, avec Alliance Vita, mobilisés auprès du grand public et des élus. Et nous défendons une société qui mise sur la solidarité intergénérationnelle et l'interdépendance, plutôt que sur la toute-puissance de l'autonomie et l'individualisme. Alliance Vita réaffirme son refus de l'euthanasie et de suicide assisté, comme de l'acharnement thérapeutique, et demande la finalisation d'une loi grand âge et autonomie, la garantie d'accès aux soins palliatifs partout en France, le renforcement de la lutte contre le suicide, la lutte contre la mort sociale des personnes âgées, la réparation des défaillances du système de santé. Différentes actions sont en cours, notamment le mercredi 28 février dernier, à la Maison de la Chimie à Paris, se tenait une rencontre internationale sur la fin de vie organisée par Alliance Vita, en partenariat avec l'Institut européen de bioéthique et le réseau citoyen québécois Vivre dans la dignité. Des experts et témoins sont venus du Canada, de la Belgique, des Pays-Bas, de Suisse, de l'État de Washington aux USA. Aujourd'hui, à l'occasion de la présentation officielle du projet de loi, une remise de l'appel de Philippe Pozzo di Borgo à l'Élysée. Le 11 avril, un webinaire de présentation du projet de loi est organisé par Alliance Vita avec Guillaume Drago, professeur de droit, Alix Duroux, médecin, et Tuc Dualderville. Dans le quotidien de nos vies, en famille, au travail, avec nos proches, nous pouvons aussi agir concrètement. Alliance Vita a édité un guide des 10 idées solidaires proposant des petites idées simples et sympathiques, comme par exemple prendre et donner des nouvelles, envoyer une carte postale d'anniversaire. Toutes les idées pétillantes de vie et permettant le lien social sont excellentes et peuvent aisément compléter ce guide. Pour conclure, je vous partage quelques paroles chantées par Grégoire. le courage et le cœur battant. Oui, mes amis, nous allons vivre.
Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.